Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le prestidigitateur, la prestidigitation, c'est un spectacle. Et tout un art, bien sûr. Pour la plupart d'entre nous, en tout cas, qui sommes de l'autre côté de la baguette, qui représentons le public époustouflé, espérons-le. Mais les prestidigitateurs se servent de nombreuses sciences, de nombreuses techniques, mécaniques, optiques, chimie, mathématiques. Et la prestidigitation peut démasquer les sciences qui ne sont pas de véritables sciences. Dans La Science en Marche, François Le Lyonnais proposait au début des années 70 deux émissions consacrées à la prestidigitation et les fausses sciences. Automates et faux automates, Robert Houdin, Baron de Quimpélen, le barman de Satan, les anneaux chinois, la femme sans tête, la femme à deux têtes. La Science en Marche, première diffusion sur France Culture, le 20 janvier 1972.
Mon invité d'aujourd'hui, la plupart d'entre vous connaissent son nom, n'est pas un scientifique, mais l'un de mes amis et l'un des meilleurs prestidigitateurs de notre époque et de notre pays. C'est Michel Seldot, qui est en outre auteur d'un ouvrage « Les illusionnistes et leurs secrets » paru aux éditions Artem Fayard. Et d'un autre ouvrage que nous évoquerons certainement à plus d'une occasion dans nos entretiens, un ouvrage sur Robert Houdin. Si j'ai inscrit cette question dans une série réputée sérieuse, La Science en Marche, ce n'est évidemment pas sans de bons motifs. On peut envisager les rapports de la prestidigitation qui est un art qui s'inscrit dans une catégorie plus générale, celle des spectacles. Avec les sciences et les techniques, en se plaçant à plusieurs points de vue, disons au moins à trois points de vue. L'utilisation des sciences et des techniques par les prestidigitateurs. L'intérêt porté à la prestidigitation par des scientifiques ou par des techniciens. Enfin, la contribution que peut apporter la prestidigitation au démasquage des fausses sciences et de l'occultisme. Première question donc, Michel Seldot, la prestidigitation utilise-t-elle souvent des procédés que lui fournissent les sciences et les techniques?
Eh bien, franchement parlé, pas tellement, c'est-à-dire beaucoup moins qu'on est tenté de l'imaginer. Enfin, on peut quand même en dénombrer quelques-uns. Certains sont relativement anciens, ils se rattachent aux sciences et techniques traditionnelles qui datent d'avant le XXe siècle. En gros, on peut les rattacher à quatre disciplines. La mécanique, l'optique, la chimie, et quatrièmement, si on peut utiliser ce mot en rapport avec la prestidigitation, les mathématiques.
Eh bien d'accord, vous nous offrez la table des matières de notre entretien. Commençons par la mécanique.
Oui, la mécanique intervient de diverses manières. Et tout d'abord, en ce qui relève de l'horlogerie.
Et de l'automatique en général.
Et de l'automatique, oui, si vous voulez, oui. Mais puisque nous parlons horlogerie, alors je suis très heureux de parler de quelqu'un et d'évoquer la mémoire de l'un des plus fameux prestidigitateurs de tous les temps, c'est-à-dire Robert Houdin, dont nous venons de fêter l'année dernière le 100e anniversaire de la mort.
Robert Houdin, dont d'ailleurs vous êtes non seulement un concurrent, mais auquel vous avez consacré un livre, « Vie et secrets de Robert Houdin », paru également aux éditions Fayard, et vous pourriez certainement nous dire quelques mots sur Robert Houdin.
Oui, Robert Houdin, qui est né en 1805, était fils, petit-fils, et je crois arrière-petit-fils d'horloger, et il était horloger lui-même. Il était un féru de l'horlogerie. Il a tellement étudié l'horlogerie que aucun secret de l'horlogerie de son temps ne lui était étranger.
Eh bien, je vais vous demander de nous dire s'il a apporté quelque chose dans ce domaine. Je ne vous parle pas dans le domaine de l'horlogerie comme inventeur. Je sais que vous aurez quelque chose à nous en dire, mais je vous propose de le réserver pour la semaine prochaine, cela. Oui. Mais a-t-il apporté des applications de l'horlogerie à la prestidigitation?
Oui, naturellement, nous allons parler plus tard des automates qui sont la plupart d'ailleurs à base d'horlogerie, mais il serait un tout petit peu fastidieux de citer toutes les applications que Robert Houdin a données à l'horlogerie. Mais je vais vous en citer une qui est encore merveilleuse, et comme elle existe encore aujourd'hui, c'est d'autant plus d'actualité. Et un ami à moi, qui est M. André Maillette, fondateur d'une maison de vente d'appareils et de fabrication d'appareils de prestidigitation, il a dans sa collection une horloge mystérieuse, l'horloge de Robert Houdin. Elle est mystérieuse en quoi?
Oui.
Eh bien, c'est un cadran en verre avec des aiguilles dorées dessus. Et ce cadran en verre est monté sur une colonne en verre. Et on ne voit pas de mécanisme. Et il n'y a rien de caché. Il n'y a aucun endroit où on pourrait cacher ce mécanisme.
Et cependant, l'horloge fonctionne.
Et pourtant,
elle donne l'heure.
Et pourtant, elle tourne.
Elle tourne, voilà.
Oui.
Eh bien, voilà un bel exemple. Oh, je crois que vous allez peut-être pouvoir nous expliquer quand même le secret dans ce cas-là.
Oui, écoutez, comme c'est un, comment dirais-je, c'est pas un tour de
prestidigitation. C'est passé à l'histoire.
Oui, c'est ça. D'abord, c'est passé à l'histoire, et ensuite, ce n'est pas un tour de prestidigitation qu'on présente sur scène. Et je vous ai dit que le cadran était monté sur une colonne. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le tout était monté sur un socle en marbre ou en métal, je ne me souviens plus très bien. Et toute l'horlogerie, toute la mécanique se trouve dans ce socle. Et le tube, oui, la colonne en verre, on croit que c'est une colonne, en réalité il y en a trois.
Voilà.
C'est-à-dire deux qui sont incorporés dans la première, et ce sont ces deux intérieurs qui tournent. Et entre cette colonne et le cadran en verre, il y a de petites fioritures métalliques aussi.
Et
c'est là que se fait la transmission, parce que les cadrans, il n'y en a pas un non plus, mais il y en a trois. Et sur les deux cadrans intérieurs, les aiguilles ne sont pas fixées, mais collées. C'est-à-dire, c'est le cadran, c'est les cadrans qui tournent.
Les aiguilles ne tournent pas, en fond.
Les aiguilles ne tournent pas, c'est deux cadrans qui tournent, l'un pour les minutes et l'autre pour les heures.
Eh bien, vous avez aussi cité, évidemment, si ce n'est pas de l'horlogerie proprement dite, c'est de l'automatisme, c'est de l'automatique. Vous avez dit, il y a les automates.
Oui.
Alors, les automates, il y en a des faux et des vrais.
Oui. Si Robert Houdin, qui était un des plus grands constructeurs d'automates de son temps, n'avait été que cela, il aurait fabriqué que de vrais automates. Mais comme, mais comme il était prestidigitateur, il en a fabriqué, noblesse oblige,
bien sûr,
des automates qui n'en étaient pas ou qui étaient semi-automates. Par exemple, je vous en cite qu'un seul, le célèbre pâtissier du Palais Royal, qui existe toujours dans la collection de l'arrière-petit-fils de Robert Houdin, Maître Kem. Ce faux automate, ou semi-automate plutôt, le pâtissier du Palais Royal représentait une pâtisserie, l'extérieur d'une pâtisserie, et il y a le pâtissier qui sortait et qui servait aux spectateurs des gâteaux et des liqueurs que les spectateurs choisissaient.
Oui, très bien.
Ce qui est déjà pas mal. Et le secret de cet automate était tout simplement le petit garçon, qui devait avoir 6 ans, de Robert Houdin, qui était caché à l'intérieur de cette boutique et qui derrière, avec des tiges, faisait fonctionner le pâtissier. Il y a un automate dont Robert Houdin a beaucoup parlé dans ses mémoires qu'il a appelé d'ailleurs Confidence, et je crois, et je ne suis pas le seul à le croire, et tous les historiens sont de cet avis, que tout ce que raconte Robert Houdin dans certains de ses chapitres, c'est, comme tout mémorialiste, un tout petit peu, comment dirais-je, inventé et tiré par les cheveux.
Merci.
Robert Houdin raconte qu'il a trouvé chez un monsieur qui vendait du bric-à-brac de la ferraille, les débris du célèbre joueur d'échecs du baron de
Kempelen.
De Kempelen, j'avais oublié son nom. Et qu'il a réussi à reconstruire cet automate. D'ailleurs, l'histoire ne dit pas où il est resté, cet automate, puisque Robert Houdin l'a soi-disant reconstruit. Mais là n'est pas la question. La question est, c'est que Robert Houdin donne une explication à ce joueur d'échecs et, comme la vérité, la véritable vérité historique sur ce joueur d'échecs ne lui convenait pas, puisqu'on a dit dans un ouvrage qui datait du 19e siècle ou du 18e siècle, je ne me souviens pas, 19e siècle, qu'il y avait un nain caché là-dedans, ça ne suffisait pas à Robert Houdin pour en faire tout un chapitre. Alors il a trouvé que, à l'intérieur de ce joueur d'échecs, de cette poupée qui représentait un joueur d'échecs, était caché un monsieur qui était un révolutionnaire polonais, qui a été amputé des deux jambes, donc c'était un cul de jatte, et qui jouait merveilleusement bien aux échecs.
Alors, il faut dire, c'est une histoire que je connais assez bien, Cet automate, il y en a eu plusieurs, des faux automates jouant aux échecs.
Oui.
Le principe, c'était qu'on avait une grande poupée de la grandeur d'un homme, si
oui.
on veut, qui avait un jeu d'échecs devant elle, et sur une espèce de table en forme de buffet, et on se doutait bien qu'il devait y avoir un mécanisme en dessous, mais il ouvrait une porte donnant sur la moitié du buffet à l'intérieur, on voyait qu'il n'y avait rien. Il la refermait, il ouvrait de l'autre côté, il n'y avait rien non plus. Il n'y avait que quelques rouages et c'est tout.
Oui.
Il y avait le temps pour un nain de passer de l'une à l'autre
oui.
pendant les opérations. Et je peux vous dire que ce n'était pas un cul de jatte, mais on a connu tous ceux qui ont occupé cette place. Il y a eu Algaier, il y a eu Günzberg, je ne vous dirai pas lesquels encore. C'était toujours des nains, en effet, de très bons joueurs. Quant au reste de cet automate qu'on avait appelé turc, parce qu'il avait un turban, comme les Turcs,
oui.
autour de la tête, je doute qu'il les ait eus parce qu'il est mort, si je puis dire, ce pauvre automate, dans un incendie à Philadelphie, et je ne sais pas si on a sauvé grand-chose. Ceci dit, j'aimerais dire un mot, mais ça nous écarte un peu de notre sujet, j'aimerais dire un mot des véritables automates joueurs d'échecs maintenant.
Oui.
Parce que maintenant, alors vous savez, quand je dis automates, des véritables joueurs d'échecs automatiques. On ne cherche plus maintenant à avoir une grande poupée qui déplace des pièces sur un échiquier.
Une forme humaine, oui, je comprends.
C'est cela, mais on n'a pas de forme humaine.
D'accord.
C'est un ordinateur, n'importe quel ordinateur d'ailleurs, pourvu qu'on puisse mettre un programme convenable dedans, et tout est dans l'art de faire ce programme qui vraiment joue, non pas contre des grands joueurs, mais contre des joueurs qui gagnent contre des joueurs médiocres, disons.
Oui.
Et c'est déjà pas si facile de faire le programme. J'ai moi-même participé comme expert à Euratom pendant plusieurs années à l'élaboration d'un de ces joueurs, d'un joueur d'échecs automatique. Mais laissons là les échecs. Il y a comme les vrais automates
oui.
dont Robert Houdin ne s'est pas désintéressé.
Ah oui, oui, oui. Robert Houdin, comme je vous le disais au début de cet entretien, était un grand, grand constructeur d'automates. Et il a fait, par exemple, et ça s'est entré dans l'histoire, il a construit le célèbre écrivain-dessinateur, qui, c'était déjà une espèce d'ordinateur, parce
oui.
que naturellement, ce qu'il devait écrire et ce qu'il devait dessiner était déjà... Il y avait déjà un petit programme, un programmateur, si
Absolument.
Vous voulez, à l'intérieur de ce joueur. C'était une poupée qui n'était pas très grande, elle devait faire 40 ou 50 cm de hauteur, mais elle a fait beaucoup de bruit. Malheureusement, on ne sait pas aujourd'hui ce qu'est devenu cet automate. Mais par contre, il y a un deuxième automate, parmi les vrais automates, j'insiste là-dessus, qui s'appelle la leçon de chant. Là, nous avons deux spécimens que je connais. L'un se trouve au musée Robert Houdin à Blois, qui a été mis en place par le petit-fils de Robert Houdin, Paul Robert Houdin, qui est, j'ouvre une parenthèse, l'inventeur des sons et lumières.
Oui,
je referme, oui, et je referme la parenthèse. Et l'autre automate du même, de la même leçon de chant se trouve dans un musée à Toulouse. Mais il y a un autre décor, c'est-à-dire là, c'est un peu plus à l'oriental. Et ça, ça je l'ai vu. C'est un merveilleux automate. Ça s'appelle en réalité la chanteuse à la serinette. Alors, il y a une chanteuse, une serinette, un oiseau. L'oiseau chante, mais il chante faux.
Voilà.
Toujours en s'accompagnant pendant qu'on tourne la sérinette. Là-dessus, la chanteuse chante à la place de l'oiseau, mais elle chante juste. Et l'oiseau reprend la mélodie et il la siffle juste.
Eh bien, voilà un bon exemple d'application de l'automatique.
Oui.
Laissons là la mécanique. Et vous m'avez cité, c'est le deuxième volet de votre quadriptyque, l'optique.
Oui, alors l'optique...
Avec ou son Robert
Houdin, nous, oui, oui, oui,
alors,
oui,
toute
oui,
la prestidigitation.
Oui, oui, toute la prestidigitation. Alors, je voudrais bien attirer votre attention sur le fait que l'optique joue un rôle assez minime dans
oui.
la prestidigitation, et je vais vous expliquer pourquoi. Une illusion d'optique doit être stable, c'est-à-dire immobile.
Ah, oui.
Je m'explique. Quand vous allez dans une foire et vous entrez dans une boutique de foire, vous voyez la femme sans tête, ou la femme avec deux têtes, ou le corps sans
oui.
je sais pas quoi. Oui, comme vous dites. Bon. Mais c'est déjà là. Vous entrez là-dedans
oui,
et vous
ça.
Voyez ce phénomène.
Elle ne se promène pas devant vous
elle
sans
ne se
sa
prenne...
tête. Oui.
Non, elle pourrait
oui,
peut-être
oui.
se promener
oui.
avant avec tout, et
oui.
tout d'un coup que sa tête disparaisse ou que son corps
oui,
disparaisse.
Oui, oui, oui.
Ceci n'est pas possible.
Oui, oui.
Donc, nous avons simplement des illusions avec des miroirs qui sont des illusions immobiles.
Voilà.
Robert Houdin, d'abord, il en explique une, c'est-à-dire l'apparition des spectres dans un de ses ouvrages, et il l'a utilisé lui-même aussi dans son jardin merveilleux, parce qu'il avait dans sa propriété le prieuré près de Saint-Gervais, près de Blois, où il s'est retiré. Il avait organisé toute une espèce de Luna Park dans son parc, où tout était truqué. Et là aussi, il y avait une apparition de spectre grâce au miroir.
Eh bien, après les miroirs et l'optique, vous m'avez cité la chimie.
Oui. Alors, la chimie joue un rôle dans la prestidigitation, mais ce rôle est plutôt assez restreint.
Oui.
Assez restreint. Il joue surtout dans les expériences où l'on utilise des liquides.
Oui.
Par exemple, la célèbre expérience du barman de Satan.
Vous faites frémir.
Oui, ou si vous voulez, le barman du diable.
Oui.
Est-ce que vous voulez frémir aussi?
Bon. Tout autant.
Alors, c'est-à-dire, on amène une carafe d'eau et puis plusieurs verres, et les spectateurs, au gré de leur choix, reçoivent de la même carafe d'eau la liqueur qu'ils ont désirée, c'est-à-dire, et puis des liqueurs de couleurs différentes. C'est-à-dire,
couleurs et de goûts différents.
Et de goûts différents aussi, oui. Alors là, inutile de vous dire, je ne veux pas aller dans les détails, sinon...
Non, on n'aurait pas besoin.
Et puis je vais me faire des ennemis, mais enfin, croyez-moi que... mais croyez-moi que la chimie joue un très grand rôle dans cette expérience.
Je n'en doute pas. Eh bien, il reste peut-être encore un autre volet, toujours en physique d'ailleurs, l'électricité. L'électricité a transformé notre vie. Elle a peut-être changé quelque chose dans l'art de la prestidigitation.
Oui, Robert Houdin, qui était un des premiers à utiliser l'électricité pour la prestidigitation, n'oublions pas qu'il est né... Bien que né en 1805, il est mort en 71, donc l'électricité n'était pas encore tellement répandue.
C'est vrai.
Il a été un des premiers à utiliser l'électricité dans ses tours et dans ses illusions. Et je vais vous citer, pour ne pas perdre de temps, l'exemple le plus connu. Robert Houdin a été envoyé par le gouvernement français en 1856 en Algérie pour mater l'influence des marabouts. Marabouts, ce sont ces prêtres sorciers.
Oui.
Je ne sais pas s'ils existent encore aujourd'hui, mais enfin, à ce moment-là, ils existaient. Et ils ameutaient, à ce moment-là, les populations algériennes contre la France.
Évidemment.
Alors, Robert Houdin a été envoyé donc par le gouvernement de Napoléon III pour montrer qu'un illusionniste chrétien, un illusionniste blanc, peut avoir beaucoup plus de pouvoir qu'un illusionniste de là-bas. Et il a donné des représentations extraordinaires, mais pour en revenir à l'électricité, il a présenté un petit coffret en fer sur scène, qui était posé sur le plancher de la scène. Il a fait monter un arabe sur scène, un arabe très fort, une espèce d'Hercule. Il lui a dit « Soulève ce coffret ». L'arabe a soulevé le petit coffret avec un doigt.
Oui.
Il a reposé le coffret et Robert Houdin lui a dit « Je vais te rendre maintenant aussi faible qu'une femme ». L'autre a ri, dit « Essaye de soulever le coffret », il n'a pas réussi. Au grand ramdam, si je peux m'exprimer ainsi, du public. Eh bien, l'explication est excessivement simple pour les temps d'aujourd'hui, mais en 1856, c'était extraordinaire, il y avait son aide, son assistant qui était dans les coulisses et qui avait une manette. Et grâce à cette manette, il pouvait envoyer un courant par des fils qui passaient sous le tapis de la scène, juste en dessous de la plaque de fer qui était posée sur la scène. Alors, s'il envoyait le courant, ça déclenchait un électroaimant qui collait,
puissant,
qui collait au coffret, et s'il enlevait le courant, le coffret pouvait être soulevé par un doigt.
Eh bien, voilà déjà une belle chose.
Oui.
Alors, l'électricité encore, si vous voulez, il y a les ondes hertziennes. Il est vrai que les ondes hertziennes, c'est venu beaucoup plus tard. C'est à partir de l'époque où Marconi les a domestiquées, c'est-à-dire 1900. Mais enfin, est-ce qu'il y a, je ne parle pas de Robert Houdin maintenant, mais est-ce que la prestidigitation actuelle utilise les ondes hertziennes?
Alors écoutez, là je voudrais bien dire une chose que je crois on n'a encore jamais dite, ni à la radio, ni à la télévision, ni dans les journaux.
Profitez-en.
J'en profite. Vous savez, les numéros de transmission de pensée comme Mireille Mirochka, Xavier Maurice et Véronica, etc., etc. Beaucoup de gens croient qu'il y a des signaux en morse qui se transmettent par des ondes, je ne sais plus lesquelles, je n'y comprends rien d'ailleurs. Pas hertzienne, mais enfin bref.
Oui.
Et je crois pouvoir dire que cela n'est pas vrai.
Ah.
Donc, et si cela n'est pas vrai, je ne vois aucune autre expérience où on aurait pu utiliser les ondes hertzienne et le morse.
Eh bien alors, il y a les mathématiques.
Il y a les mathématiques, mais alors ça, comme je vous l'ai dit, c'est en dehors du domaine de la prestidigitation pure, c'est plutôt, comment dirais-je, des expériences, des curiosités.
Oui, d'un de salon aussi.
De salon, etc.
Mais enfin, il y a par exemple... Mais les anneaux chinois, est-ce que c'est de la topologie d'une certaine manière?
Les anneaux chinois...
Est-ce que vous nous rappeler en gros...
Les anneaux chinois, c'est un tour de prestidigitation. Il faut vous montrer des anneaux qui sont complètement soudés. Vous les donnez entre les mains des spectateurs, vous les reprenez. Malgré tout, les anneaux s'enclavent les uns dans les autres. Et tout ce que je vous raconte là, ça n'a rien à voir ni avec l'électricité, ni avec la mécanique, mais avec la prestidigitation pure.
Oui, enfin, je crois que c'est lié peut-être à des aspects mathématiques, c'est le ruban de Möbius. Le ruban de Möbius même, cet anneau tordu avec lequel on amuse des enfants, ça c'est de la prestidigitation de famille, si je puis dire. On le coupe en deux, et après qu'on l'a coupé par le milieu, il n'en reste qu'un seul.
Oui, c'est ça. Oui,
si alors, évidemment, c'est plutôt, je dirais, de la prestidigitation d'amateur, le moyen pour les parents d'étonner les enfants, ou pour les enfants d'étonner les parents d'ailleurs. Ce n'est pas de la prestidigitation sur scène, ça, c'est d'accord. Il y a peut-être aussi le calcul des probabilités. Est-ce qu'on ne l'utilise pas?
Le calcul des probabilités est utilisé quelques fois, mais comme ce n'est qu'une probabilité, donc on n'a aucune sûreté.
C'est cela, voilà, on prend un risque.
On prend un risque, et je crois que les illusionnistes n'aiment pas beaucoup prendre les risques. Ils en ont suffisamment comme ça.
Bien sûr. Il est vrai qu'ils savent très bien retomber sur leurs pieds.
Heureusement.
Lorsque quelque chose a raté, eh bien finalement ça passe très bien. Ils disent quelque chose et on ne s'en aperçoit pas.
Surtout si on a un numéro comique.
Il y a quelque chose, c'est pas de la prestidigitation bien sûr, mais qui impressionne beaucoup le grand public, le profane. C'est une chose que j'ai essayé à plusieurs reprises. Quand on se trouve devant un groupe de, disons, plus de 45 personnes, une cinquantaine, et plus il y en a, mieux ça réussit. Une classe, par exemple, ou un groupe d'étudiants, ou un groupe, peu importe, un syndicat, ce que vous voudrez. Eh bien, dès qu'on a environ 50 personnes ou plus, on peut parier qu'il y a au moins deux personnes qui sont nées au même jour du mois de l'année. Pas forcément de la même année. Mais si on demande à chacun de dire sa date de naissance, alors un va vous dire le 17 août, un autre le 3 octobre, bah c'était ma date, un autre le 15 janvier, etc.
Le 28 avril, c'est la mienne.
Voilà. Et à un moment donné, on demande ce que, dès qu'il y a une personne qui est de la même date, elle lève la main, 50 personnes, il y a 365 jours dans l'année. Eh bien, malgré tout, il y en a... Au moins deux, il y en a plusieurs, qui sont deux à avoir la même date, simplement sur 5 ans.
J'ignorais.
Et là, je suis prêt à prendre un pari d'argent que je peux perdre, c'est pas impossible, mais je le gagnerai si souvent que la chose est gagnée. Oui, c'est pas de la précipitation, mais ça lui ressemble, gens s'imaginent, c'est assez étonnant. Eh bien, dites-moi, du côté maintenant de la science actuelle, disons de la science en marche, puisque c'est dans une émission intitulée « La science en marche » que je vous ai invité. Bon, l'infrarouge, l'ultraviolet par exemple, qui sont déjà un peu anciens, mais enfin, pas tellement. Ou l'électronique. Enfin, avez-vous quelque chose?
Écoutez, je réfléchis dans l'ordre chronologique, comme vous venez de citer. Et pour l'infrarouge, je ne vois rien. Enfin, personnellement, je peux me tromper et je serais heureux de savoir s'il y a des expériences faites grâce aux rayons infrarouges. L'ultraviolet, depuis... un bon siècle, oui. Parce que grâce aux rayons ultraviolets, on peut faire voir des choses et en cacher d'autres.
Voilà.
C'est pour cela que nous avons plusieurs numéros dans le monde. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment merveilleux, surtout le théâtre de magie noire de Prague, qui montre des spectacles entiers basés sur les rayons ultraviolets. C'est-à-dire, vous voyez des tables qui marchent toutes seules, des objets qui se déplacent, des personnes qui apparaissent et qui disparaissent. L'explication en est simple, ces personnes sont habillées en noir, il y a simplement certaines parties qui sont recouvertes de la couleur fluorescente. Alors quand la personne se retourne, elle apparaît, puis quand elle se retourne une deuxième fois, elle monte le dos, elle est de nouveau tout en noir, etc. Les objets qui traversent la scène sont tenus par d'autres personnes qui sont habillées de noir, avec des gants noirs, et qui tiennent des objets fluorescents, et ça donne l'impression de flotter dans les airs. Quant au marquage des cartes dont on parle souvent, alors là, les ultraviolets ne jouent pas tellement bien qu'il y a des cartes marquées d'une façon fluorescente qui ne se voit pas À la lumière normale, mais si on a des lunettes spéciales, on le voit. Voilà. Mais alors là, je voudrais de nouveau citer Robert Houdin, et ce qui n'a rien à voir avec les rayons ultraviolets. Robert Houdin était expert pour les tricheurs. Auprès des tribunaux, on l'a fait venir, on lui a montré des cartes avec lesquelles on a triché, et les policiers qui avaient confisqué ces cartes n'arrivaient pas à savoir ce qui se passait. Oui. Eh bien, ces cartes étaient marquées par des points. Des points mis à des endroits différents des dos des cartes.
Mais les policiers auraient pu le voir ?
Non, ils n'ont pas pu les voir parce que les cartes devaient être tenues sous un certain angle qu'on puisse remarquer le point. Et Robert Houdin a trouvé cette petite astuce, mais ceci n'a rien à voir avec les ultraviolets. La troisième question que vous m'avez posée, c'est l'électronique. Alors l'électronique joue un tout petit rôle dans la prestidigitation, mais un tout petit, minuscule. Parce que l'électronique, c'est d'abord très très cher, et ensuite c'est vraiment trop compliqué pour retrouver les effets que nous trouvons grâce à la manipulation, à l'horlogerie et à l'électricité tout court.
Ben bien sûr. Ça pourrait être le cas des fibres optiques qui pourront être appliquées. Dans un avenir plus ou moins lointain, je ne sais pas si on appliquera le laser ou les hologrammes. Les hologrammes, je n'en serais pas étonné. Mais ceci, c'est pour l'avenir et nous parlons du passé et du présent. Eh bien, je vous propose d'interrompre là ce premier entretien et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous demander alors quels sont les véritables secrets non scientifiques de la prestidigitation et aussi pour examiner les rapports, les autres rapports qu'on peut voir entre prestidigitateurs et science.
C'était La Science en Marche, la prestidigitation et les fausses sciences par François Le Lyonnais qui recevait Michel Seldot, auteur du livre Les illusionnistes et leurs secrets. Première diffusion sur France Culture, 20 janvier 1972. Pour notre part, nous n'attendrons pas une semaine pour connaître la suite. Ce sera demain, dans les Nuits Transculture, à la même heure. Et d'ici là, vous pourrez réécouter en ligne cette émission ou la télécharger sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.